Quoi de neuf doc, le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Quoi de neuf doc.
Il y a une petite dizaine d'années, il y avait encore deux médecins sur le canton.
Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Allez, allez. Et aujourd'hui, bah, Jean-Pierre est tout seul. Il n'est pas immortel. Nous devons envisager le futur.
Un extrait de la bande-annonce du film de Thomas Lilti, médecin de campagne. Lucas Reynaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin urgentiste à la clinique Convert et vous venez de rejoindre l'équipe du département de l'Ain. Cet extrait qu'on vient d'entendre rappelle une expression qu'on entend aussi partout aujourd'hui, désert médical, et notamment dans notre département. On peut rappeler hein, 15% des Indinois n'ont pas de médecin traitant et l'Ain est au 15e rang des départements les plus démunis de professionnels de santé. Alors, Lucas Reynaud, vous êtes un jeune médecin. Quel regard vous portez-vous sur ces chiffres ?
Ben, en fait, c'est des chiffres qui ne vont pas s'améliorer hein, sur les années à venir. Là, pour un médecin qui part à la retraite, il faudra peut-être deux jeunes pour le remplacer en termes de temps de travail, parce qu'il y a aussi un changement générationnel hein, qui fait qu'on ne veut plus travailler 80 heures par semaine. Il y a aussi le fait qu'il y a moins de jeunes qui sont formés que de médecins qui partent à la retraite et que l'Ain est un des premiers départements, si n'est le premier en Auvergne-Rhône-Alpes, en termes de déficit en médecins. Après, la France est un grand désert médical, donc l'expression, elle n'a plus de sens. Hein. C'est la galère partout, hein. Que ce soit en ville, dans les grandes métropoles ou en campagne. Et oui, il n'y aura plus un médecin par village.
Ça ne fait pas un peu peur d'entrer dans le métier avec ce contexte ?
Ben si, parce qu'en plus moi je suis urgentiste, donc la médecine de premier recours c'est à s'effondre, c'est nous qui ramassons les pots cassés entre guillemets, hein. Donc c'est pas que c'est inquiétant, c'est qu'il va falloir vite trouver des solutions, parce que les dernières décennies elles n'ont pas apporté les bonnes solutions, que ce soit en termes de formation ou de gain de temps médical, c'est la cata partout. Maintenant, on a le constat, on le crie depuis des années. On était en grève avant le Covid, on a retravaillé à fond après le Covid. C'est plus possible de tenir dans ces conditions, notamment aux urgences. Après, la médecine de premier recours, la médecine générale, c'est là qu'il va falloir les aider. Et l'idée du poste au département, c'est de faire du recrutement un peu large et puis de trouver ensemble les solutions en étant un guichet unique pour aider à l'installation.
Justement, vous rejoignez l'équipe donc, du département de l'Ain. L'idée, c'est de promouvoir le territoire auprès des médecins. Concrètement, comment ça va se goupiller tout ça ?
Ouais, c'est plutôt d'aider, on va dire, dans toutes les démarches administratives qui sont monstrueuses hein, et de trouver comment gagner du temps médical et essayer d'enlever un peu de temps administratif. Hein, quand on va chez le médecin généraliste, on voit toujours des montagnes de paperasse. En fait, c'est même avec l'informatisation, c'est toujours un grand temps du service, que ce soit à l'hôpital ou au cabinet, de notre temps au quotidien. Donc voilà,
oui,
décharger ça pour voir plus de malades.
Ce qu'on ne voit pas quand on va voir un médecin, on ne voit pas cette partie-là, cette partie administrative, la partie comptabilité. Ça, est-ce que vous êtes formé dans les études de médecine sur cette partie-là ?
C'est vrai qu'on est formé, on va dire, tard. On a des stages tout au long du cursus, donc de la 3e à la 10e année, donc de façon quotidienne. Donc oui, à un moment donné, on est dedans, entre guillemets. Après, cette partie-là, ce n'est pas du médical pur. Ça fait partie du job, on le sait. Mais par contre, pour le patient, il ne peut pas le comprendre, il ne peut pas le concevoir. Et il a raison. Il n'y a plus de médecin aujourd'hui. Donc si on décharge d'une certaine partie, on ose espérer qu'on verra plus de malades.
Parmi les actions mises en place ou qui vont être mises en place par le département, il y a l'ouverture de la première année PASS dès septembre 2022, ici à Bourg-en-Bresse, ou encore le recrutement de 10 médecins salariés par le département. Concrètement, comment on attire ces médecins ici dans l'Ain ?
Moi, je pense, et ça a été mon cas, qu'il faut juste les faire venir et voir le territoire. L'Ain, mais comme d'autres départements, il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup d'attraits. Par rapport aux grandes métropoles, il y a des avantages, notamment sur l'immobilier. Et ce n'est pas du tout, en post-Covid, inconcevable. Donc, enfin, je veux dire, c'est même plutôt un vrai avantage. Donc, l'idée, c'est de les faire venir déjà, parce que Bourg-en-Bresse, c'est que à 1 heure de Lyon. Nous, l'ensemble de nos études pendant 10 années, elles se passent sur Lyon essentiellement. On passe 6 mois dans les territoires en périphérie, entre guillemets, de la grande métropole, du CHU. Mais en fait, les faire venir, peut-être qu'ils rencontreront leur conjoint, peut-être qu'ils... Enfin, voilà. L'idée, c'est déjà de les faire venir et donc c'est ça le job.
Et vous, si on revient sur votre parcours, vous avez fait vos études à Lyon. Vous connaissiez le département, vous êtes originaire d'ici ?
Non, pas du tout. Je suis originaire de Valence dans la Drôme. Donc j'ai fait 18 ans à Valence, puis un peu plus de 10 ans à Lyon. Et oui, je suis passé interne dans l'Ain. Je suis passé interne à Fléria, à Bourg-en-Bresse, aux urgences et au SAMU. Et donc ça a été découverte d'une équipe, découverte aussi d'un territoire. Et je suis très content d'arriver ici 3 ans après.
Un des axes aussi développés, c'est les nouvelles pratiques, mettre en place de nouvelles pratiques, comme par exemple, c'est ce que j'ai lu, hein, la mise en place d'un binôme médecin-infirmier. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça marche ?
Ouais, alors c'est des aides, enfin comment dire, c'est mis en place par le gouvernement. C'est des aides, pareil, pour gagner du temps médicaux. Il y a la mise en place d'assistants médicaux, ça existe déjà. Hein. C'est quand on s'installe à plusieurs, on a le ministère qui payera un poste, par exemple, d'infirmier ou d'assistant médicaux, donc il y aura un peu plus d'administratif pour décharger justement tout ce côté administratif pour le médecin. Gagner du temps médical, c'est ça l'objectif. Après, l'avenir, c'est le développement des IPA, donc les infirmiers en pratique avancée, donner plus de compétences à des gens qui sont compétents, mais il faut les former dans certains domaines. C'est pas enlever du job au médecin généraliste, hein, c'est vraiment l'aider dans son quotidien. Les IPA, c'est l'avenir, mais il faut aussi former de nouveaux médecins. Vous avez parlé de la première année de médecine à Bourg-en-Bresse. Il y aura probablement une centaine ou plusieurs d'étudiants. Il y a toujours un équivalent numerus clausus, même si le gouvernement y a mis fin. On n'a pas augmenté les capacités de formation. Donc en fait, c'est un peu de la poudre aux yeux pour le moment. Donc le fait d'avoir des premières années qui, au final, en deuxième année, iront à Lyon hein, pour tout leur cursus, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas encore la solution. Mmh. Mais c'est un début. Donc on enchaîne les petites choses.
En fait, les patients, là, vous êtes en train de nous dire, il faut qu'on s'habitue à se dire que pour encore 10, 12, 15 ans, on est en galère avec les médecins et on s'habitue aux télécabines. C'est ça l'avenir de la médecine ?
Alors, j'espère pas. La télécabine, on ne touche pas le malade, il n'y a pas de clinique. Donc, c'est vraiment dans certains cas très, très particuliers. Et d'ailleurs, c'est bien décrit avant la consultation ou sur les notices, entre guillemets, d'utilisation. Donc, la télécabine, c'est mieux que rien. Ce n'est pas du tout la solution. Il faut le développer parce que la télémédecine, c'est l'avenir aussi, avec les nouvelles technologies. Mais j'aime à dire qu'à l'hôpital et à la clinique, on est encore avec les fax. Donc, développer de nouvelles technologies dans ce contexte-là, on pourrait peut-être déjà améliorer les conditions de travail.
Vous travaillez, vous l'avez dit, dans un service d'urgence. On entend aujourd'hui des alertes sur les urgences saturées. On a parlé récemment des urgences du CHU de Bordeaux qui sont contraintes de filtrer les entrées la nuit et puis d'avoir recours à des bénévoles. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation ?
Le métier d'urgentiste dans le domaine médical, pour moi, c'est les pires conditions d'exercice. C'est-à-dire que c'est la détresse, c'est l'attente parce qu'il y a toujours des gens plus graves que vous. Bordeaux se concentre sur les patients régulés du SAMU, donc il y a les urgences graves qu'on peut imaginer que si on n'intervient pas, il y a un décès dans l'heure, mais il y a aussi les urgences relatives, non graves, qui peuvent attendre peut-être 2 jours, comme les fractures, etc. Tout ça, c'est régulé par le 15 et c'est pris en charge. C'est le tout venant, en fait. C'est un patient qui se gratte depuis 1 an, qui débarque aux urgences dans ce contexte-là. Nous, on a un métier de l'aigu, donc ce n'est pas notre métier. Donc, en fait, là, on pallie au système défaillant où il n'y a plus de généralistes, mais aussi plus de dentistes, plus d'ophtalmos, etc., plus de cardio. On peut tous les faire, en fait. Et donc, on débarque aux urgences parce que c'est le service d'accueil 7 jours sur 7, sauf qu'on est formé au grave, à l'aigu, à la prise en charge du patient urgent. Mais dans les urgences, encore une fois, il y a le relatif. C'est-à-dire que si je me coupe le doigt, il faut aller aux urgences pour se faire recoudre. Donc voilà, ça c'est du non grave, mais urgent. Et donc ce tout venant-là, qui a des questions médicales, peut-être qu'il devrait plus passer par le 15 et le conseil médical. Mais pareil, toutes les lignes de 15, elles sont en difficulté. Il y a de recrutement, de conditions de travail également. Parce que quand il y a une heure d'attente au 15, il faut imaginer qu'il y a 30 personnes qui attendent en fait et que... le bon petit médecin, il fait ce qu'il peut, mais à un moment donné, c'est difficile, quoi. Donc, peu importe le mode d'exercice, c'est toujours difficile.
Sur les réseaux sociaux, certains médecins que je suis sur Twitter préconisent d'éduquer les patients, leur donner des clés pour jauger de ce qui est grave ou de ce qui peut attendre. C'est vrai qu'on n'a pas forcément les clés, nous, en tant que patients, pour savoir si notre situation est grave ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que c'est primordial. Et pour aller un peu plus loin, je pense qu'il faut aller plus loin dans le secourisme et dans les gestes de premier secours. Moi, je suis bénévole en formation parce qu'en fait, je suis scandalisé de travailler au SAMU et de voir un patient de 40 ans décédé d'un arrêt cardiaque alors qu'il suffisait juste de le masser, de faire un massage cardiaque. Mais les gens, ils ne sont pas au courant ou ils ont perdu l'habitude. Ils ont été formés une fois et 10 ans après, ils ne s'en rappellent plus, ce qui est normal. Donc en fait, il faudrait une vraie campagne nationale de formation gestes de premier secours et d'éducation à la population. Mais c'est un gros mot de dire ça parce que c'est pas du tout leur job. Mais bon, plutôt de trouver des solutions pour qu'ils aient un recours plus facile à leurs questions, tout simplement.
Lucas Reynaud, comment vous voyez votre avenir en tant que médecin ?
C'est une bonne question. J'ai du mal à me projeter parce que le métier d'urgentiste, il est difficile et je sais que je pourrais pas faire ça dans 10-15 ans. Parce qu'enchaîner 24 heures de garde, en fait, c'est inhumain, faut le dire. Quand on vient à 3 heures du matin pour une entorse de cheville il y a deux jours, enfin, moi, ça me rend fou et ça m'énerve. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens, c'est que peut-être il y a moins de monde la nuit, mais peut-être que le médecin aussi, il a besoin de se reposer, parce qu'à 4 heures du matin, il y aura peut-être l'arrêt cardiaque à prendre en charge, la vraie urgence ultime. Donc l'éducation, elle est dans les deux sens aussi. Il faut penser aussi aux médecins sur place.
Lucas Reynaud, merci. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste à Bourg-en-Bresse et représentant du département de l'Ain pour promouvoir notre territoire auprès des professionnels de santé. À bientôt pour un nouveau numéro de Quoi de neuf Doc. Quoi de neuf Doc, le quatrième vendredi du mois sur Radio B.